Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, quelle loi pour protéger les prostituées en Europe ? Plus de 20 ans après la Suède, l'Espagne s'apprête à interdire la prostitution en punissant à la fois les clients et les proxénètes. Un changement radical d'approche car jusqu'alors aucun texte n'encadrait le secteur et les maisons closes étaient considérées par la loi comme des boîtes de nuit. Tout va changer. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, qui a reçu l'appui de la droite, compte bien faire adopter la loi avant la fin de sa législature, même si les opinions sont divisées. C'est le reportage à Barcelone de notre correspondante Élise Gazangel.
Abolir ou réguler la prostitution, c'est en somme la question que se pose l'Espagne depuis l'approbation début juin d'un projet de loi visant à interdire le plus vieux métier du monde. Le débat oppose deux camps, les abolitionnistes qui estiment qu'aucune femme ne peut consentir à vendre des services sexuels et les pro-droits qui incluent plusieurs collectifs des travailleuses du sexe revendiquant le choix d'exercer librement. Face au siège du Parti socialiste espagnol fin juin, elles étaient des dizaines, souvent masquées pour rester anonymes, à réclamer le retrait du projet de loi. L'une d'entre elles a pris la parole.
Nous considérons que l'interdiction de la prostitution est une limitation de notre liberté comme femme et une stigmatisation intolérable pour celles qui veulent exercer librement.
Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del grupo parlamentario socialista para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Comienza la votación.
Le projet de loi a finalement obtenu le soutien de la droite face à l'opposition d'une partie du gouvernement de coalition d'extrême gauche, Unidas Podemos, du centre-droit, Ciudadanos, et des partis régionalistes. Le texte est le premier pas légal pour interdire le proxénétisme sous toutes ses formes, en punissant ceux qui louent des locaux où s'exerce la prostitution et ceux qui en sont clients. Adriana Lastra, numéro 2 du Parti Socialiste.
L'Espagne ne peut plus regarder de l'autre côté face à cette grave violation des droits humains et les socialistes vont continuer avec ce projet qui va vers l'abolition de la prostitution. Dans une démocratie, la lutte contre la pire forme d'exploitation ne peut être secondaire.
Mais pour la professeure de droit et membre du groupe d'investigation Antigona de l'Université Autonoma de Barcelone, Lorena Garrido, ce projet de loi qui s'inspire du modèle suédois pose plusieurs problèmes.
Selon les études des universités suédoises, on n'en a pas fini avec la prostitution. Elle se maintient au même niveau et elle se déplace juste vers les endroits plus cachés où les possibilités de négocier le type de service, la durée ou même de refuser un service pour les femmes sont revues à la baisse. Et les victimes de trafic, qui va les détecter ou les identifier désormais ? Parce qu'on a besoin de s'approcher d'elles pour savoir si elles sont victimes de trafic. Cette loi les relègue à un lieu de non-droit. Et pour cela, la violence subie peut être pire.
En outre, l'enseignante qui se considère pro-droit soulève la question de la stigmatisation légale.
Le choix de la prostituée n'est plus valable juridiquement. Et d'un point de vue théorique, cela rabaisse la femme à un niveau d'infantilisation quant à son consentement sexuel. Ce consentement n'a plus de valeur et cela la met dans la position d'une mineure où sa capacité de décider est inférieure à celle d'un homme ou d'autres femmes quant à son autonomie sexuelle.
La juriste pense que d'autres lois pourraient être adoptées pour aider les femmes prostituées, surtout les étrangères en situation irrégulière qu'elle estime majoritaire dans le secteur et qui ne peuvent travailler légalement qu'après 3 ans de résidence dans le pays.
Il faut leur octroyer toutes les aides possibles pour qu'elles aient d'autres options que la prostitution, à commencer par la loi sur les étrangers qui maintient ces personnes dans un espace d'exploitation pendant 3 ans avant de les régulariser. Parce qu'ici, ce qu'on a, c'est un paquet de personnes disponibles pour être exploitées. C'est ça la loi sur les étrangers ici.
Lorena Garrido dénonce enfin un projet de loi qui n'inclut aucun budget, alors que selon elle, il faudrait plus de moyens pour aider ces femmes à sortir volontairement de la prostitution au lieu de les punir. Alika Kinan, elle, a réussi à sortir de la prostitution pratiquement seule. Ex-travailleuse du sexe en Argentine et en Espagne dans des bordels, elle lutte désormais pour abolir la prostitution dans le monde. Elle était de passage à Barcelone lors d'une conférence où elle défendait sa position.
Non, c'est impossible.
Il est impossible de réguler la prostitution parce que nous, on entre seul dans une chambre avec ces hommes. On n'est pas accompagné d'un fonctionnaire, à moins que ce soit lui qui paye pour le sexe. Moi, je suis pour la liberté de faire ce que l'on veut de nos corps. Et c'est pour ça que je suis contre la prostitution, parce qu'une prostituée ne fait pas ce qu'elle veut de son corps, mais ce qu'on la paie pour le faire.
L'activiste dénonce le manque de moyens pour accompagner ce qu'elle considère être toutes des victimes et reconnaît les risques que comporte la clandestinité de la prostitution. Malgré tout, elle défend le projet de loi espagnol.
C'est un bon début. C'est la première mesure d'un pays qui est dévasté par la prostitution. La première mesure pour combattre les organisations criminelles qui font tourner le bordel de l'Europe. Parce que l'Espagne n'est ni plus ni moins que le bordel de l'Europe.
Selon plusieurs estimations, ce sont près de 150 000 familles qui vivent de ce secteur en Espagne. Autant de femmes qui perdront leurs emplois ou plongeront dans l'illégalité si ce projet de loi est finalement approuvé.
Et la Suède, justement, a été le premier pays en Europe à légiférer pour interdire la prostitution. La loi intitulée « La paix pour les femmes » a été adoptée en 1998. Elle est entrée en vigueur l'année d'après. Son objectif, protéger les prostituées comme des victimes et criminaliser les clients. Très décriée lors de son adoption, elle est aujourd'hui largement acceptée. À Stockholm, Frédéric Faux.
Depuis l'introduction des poursuites envers les clients, la prostitution de rue en Suède aurait diminué de moitié. Il y a la peur de l'amende, des 6 mois d'emprisonnement, mais surtout des conséquences de la procédure publique sur la famille et l'entourage. Et les médias suédois ne se privent pas de relater les achats de services sexuels lorsqu'il s'agit de personnalités, comme par exemple très récemment ce dirigeant d'une agence de publicité qui avait justement organisé une campagne contre la prostitution. Selon la police, la nouvelle loi n'aurait pas aggravé la clandestinité de la prostitution, ni les violences contre ceux qui en vivent. Son impact sur le nombre de femmes et d'hommes qui vendent leur corps est en revanche plus incertain. L'offre et la demande de sexe tarifé dépendent d'autres facteurs. Les réseaux sociaux et Internet ont aussi facilité les relations entre prostituées et clients, même s'ils permettent aussi aux policiers de repérer très rapidement les transactions. Une seule chose est sûre, si une majorité de Suédois étaient contre cette loi lors de son entrée en vigueur, ils sont aujourd'hui 70% à la soutenir.
Bonjour Alice Roja.
Bonjour.
L'actualité d'outre-Atlantique n'en finit pas de provoquer des remous dans le monde et en Europe. Depuis que la Cour suprême américaine a cessé de garantir le droit à l'avortement, les Européens se mobilisent. Alice, c'est votre Europe cette semaine.
Oui, parce qu'en Europe, comme partout dans le monde, les droits humains fondamentaux pourront toujours être remis en question. Ça, la jeune génération, elle en est consciente et elle s'est levée, d'abord en soutien, puis en lutte pour le droit inconditionnel à l'avortement. Sur les réseaux sociaux, dès l'annonce de la révocation par la Cour suprême américaine, avec les hashtags IVG ou IVG sans danger, et dans la rue, en France, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne ou en Pologne. Ce que nous dit l'actualité et que nous comprenons, c'est que le droit à l'IVG est fragile. Aucun texte ou jurisprudence européenne n'encadre l'avortement. Donc en termes de droit, cela signifie que les États légivèrent comme ils veulent sur la question. Ils ne sont pas contraints par une législation supérieure qui protégerait justement ce droit.
Et en Europe, deux pays s'illustrent comme des pays anti-IVG.
Oui, Malthus est carrément interdit, inscrit dans le code pénal et passible de 3 à 4 ans de prison pour le médecin comme pour la patiente. Des centaines de médecins maltais ont d'ailleurs déposé un recours cette semaine pour demander la suppression de cette interdiction. Et en Pologne, où il est extrêmement restreint, et le mot est à peine... Enfin, je le pèse, quoi. Une femme peut passer plus de 20 ans derrière les barreaux pour s'être fait avorter. Elle ne peut le faire qu'en cas de viol ou d'inceste. Et depuis 2021, donc un an à peine, la malformation du fœtus n'est même plus une condition acceptable pour avorter. Contre cela, les Polonaises sont régulièrement dans les rues à manifester, parfois en marée de plusieurs centaines de milliers.
Et pour le reste de l'Europe, on peut dire que le droit à l'avortement existe, certes, mais il ne veut pas dire la même chose partout.
C'est clair, les réalités sont bien différentes selon où habitent les femmes. Première variable, le délai légal de recours à l'avortement. Il oscille entre 10 semaines au Portugal ou au Kosovo et 24 au Royaume-Uni. Si l'acte médical est remboursé en France ou au Danemark, il est à 100% à la charge de la femme en Lettonie. Puis il ne faut pas oublier que ce n'est pas un droit européen établi de longue date. Rappelez-vous, il a fallu attendre 2019 pour que ce soit légalisé en Irlande. Et puis on est encore loin de la liberté de choisir pour les femmes. En Italie, en Allemagne ou en Grèce, il faut d'abord avoir l'accord écrit d'un médecin pour avorter. Et puis si on est mineur, celui évidemment des parents. En Espagne, à ce sujet, sous un gouvernement conservateur, le droit à l'avortement a régressé en 2015, réclamant un accord parental aux filles de 16 et 17 ans. Aujourd'hui, ça fait du grabuche parce que le gouvernement espagnol veut modifier cet article aux grandes dames des plus religieux qui protestent pour la vie.
Et d'ailleurs, ces discours anti-avortement se font entendre partout en Europe.
Oui, en Hongrie, ce sont des campagnes d'affichage dans le métro, en plus des discours pro-enfantement à la télé, à l'hôpital. En Italie, en 2020, le ministère de la Santé avait recensé 80% de médecins refusant de pratiquer une IVG. Dans la rue, en Croatie, des groupes viennent mettre la pression en campant devant les cliniques et les églises pour prier. Et puis à l'école aussi. En Belgique, un professeur avait qualifié l'avortement de crime pire que le viol. Bref, on l'a vu avec cette chronique, le droit à l'avortement en Europe comme ailleurs, c'est pas du tout gagné. En tout cas, c'est pas définitif.
Merci Alice Roja, à la semaine prochaine. Trouver de nouveaux modèles de réinsertion pour les prisonniers. En Irlande, la prison de Castlereagh, dans le centre du pays, innove avec un modèle déjà testé aux États-Unis et en Australie. Des détenus triés sur le volet peuvent aller travailler dans une écurie et se former avec l'espoir de trouver du travail dans le monde du cheval à leur sortie. C'est le reportage de Laura Tauchanoff.
Les écuries sont juste en face de la prison, dans un bâtiment séparé. Dans un des box, un vétérinaire est en train d'ausculter une des juments pour suspicion de ver.
Gary, tu peux me donner le spray juste à côté du carton, par terre, là ?
Gary, c'est l'un des 8 élèves de cette formation équine de 12 semaines.
Ce grand gaillard, c'est Timberstorm. C'est mon préféré. J'aime comment il est avec moi. Il me donne des petits coups de tête. Ça montre qu'il me fait confiance.
L'homme de 38 ans purge une peine de prison de 3 ans pour conduite dangereuse sur la route. Du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h, il quitte sa cellule et son uniforme de détenu pour apprendre à s'occuper des chevaux.
Ça fait 2 ans que je suis là et j'arrive à la fin, Dieu merci. C'est un pas positif vers la sortie. À la fin de la formation, on reçoit un certificat, donc avec un peu de chance, je trouverai du travail après. Avant, je ne connaissais rien aux chevaux, et maintenant, je peux les panser, leur faire des bandages s'ils sont blessés, leur faire des injections, nettoyer les écuries. Au lieu de gâcher mon temps en prison, j'en profite pour apprendre. Ça remonte le moral, vous savez que vous arrivez à la fin, vous avez été puni et vous y êtes presque. Je suis chanceux d'avoir été choisi parmi la centaine de détenus. Ça booste la confiance en soi.
Seules quelques caméras au plafond les surveillent pour éviter les tentatives de trafic, par exemple. Les écuries ne sont pas non plus fermées à clé et des joggeurs ou des promeneurs passent devant sans forcément savoir qui sont ces hommes. Tous les détenus ne sont donc pas éligibles, explique Anthony Shalley, le directeur de la prison.
On a déjà dû retirer deux détenus de la formation parce que leur comportement s'était dégradé dans la prison. On doit être sûr que les gens qu'on envoie ici, en dehors de la prison, sont de confiance et s'assurer que le risque de récidive est bas. Il faut des gens qui prouvent pendant leur détention qu'ils veulent progresser dans leur développement personnel, des gens qui se comportent bien, qui ont de bons rapports avec le personnel et qui sont fiables. Tout le monde peut faire des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites après. On leur donne l'opportunité de réussir à leur sortie, de trouver un travail, d'éviter les ennuis et de ne pas revenir en prison.
Pour encadrer ces hommes, la prison a recruté Paul Kelly.
Une course, une victoire, 10 000 euros. Maintenant, il est à la retraite parce que ses pieds sont déformés.
L'ancien jockey professionnel et instructeur dans l'armée avait le CV idéal.
J'ai été jockey pendant 7 ans. Certains sont trop lourds ici pour être jockeys, mais ils feraient de bons palefreniers. Ce que j'ai constaté ici, c'est que ça les calme. Ils créent un lien avec les chevaux et ça les responsabilise. Et on essaie de leur expliquer qu'il y a toujours des emplois dans l'industrie équine. Rien que ce matin, j'ai vu sur Facebook que 7 entraîneurs cherchaient des jockeys et 9 haras cherchaient des employés. Alors, il y a plein de travail pour eux dehors.
Beaucoup de ces prisonniers viennent de banlieues difficiles où la violence fait loi. Augmenter leur compassion et ainsi éviter les récidives grâce à cet animal symbole de liberté. Testée en Irlande depuis un an, la méthode a déjà fait ses preuves aux États-Unis et en Australie.
Et en Italie, les chiffres sont impressionnants. Selon le dernier rapport commandé par le ministère italien de la Justice, 30% des détenus ont un travail, un modèle vertueux qui aide clairement à la réinsertion, mais qui cache de nombreuses disparités au niveau national. Les explications sur place de Blandine Hugonnet.
Derrière les murs gris de la prison de Padoue, dans la région de Venise, une majorité de détenus s'activent tous les jours à leur poste pour fabriquer des talons de chaussures de luxe, des sachets de thé ou des panettone Giotto, fameuse brioche italienne. En Toscane, sur l'île de Gorgone, les prisonniers, eux, sont employés à la production de vin. En Italie, depuis une loi de 1975, les condamnés peuvent travailler, et c'est même inscrit comme un objectif, utiliser le temps de la peine pour se former en vue d'une réinsertion. Et les répercussions sont positives, avec un taux de récidive qui tombe à 10% chez les prisonniers actifs. Payés 7 euros de l'heure, leur estime de soi explose, et les problèmes de santé, comme l'obésité ou la dépression, diminuent drastiquement. Sauf qu'en réalité, l'expérience n'est bénéfique que pour les rares condamnés italiens qui accèdent à un réel emploi. Comme le révèle le dernier rapport pour le ministère de la Justice, parmi les 30% considérés actifs, seuls 4% ont un contrat pour une entreprise qui les forme et les fait travailler à l'intérieur ou hors des murs et permet d'ouvrir les portes du marché du travail après la détention. Mais la grande majorité des détenus est en fait employée par l'administration pénitentiaire elle-même pour quelques heures de tâches domestiques par semaine, pour de la petite maintenance, du ménage ou de la cuisine de la prison. Pas de quoi offrir un avenir professionnel, dénoncent les associations de réinsertion qui interpellent le gouvernement depuis une loi en 2000 qui a réduit les charges pour les patrons qui embauchent des prisonniers. Rien n'a été fait et la pandémie a mis la moitié des travailleurs à l'arrêt pendant des mois, confinés dans leurs cellules. Bref, les associations déplorent que l'Italie n'investit pas assez sur un modèle vertueux qui ferait pourtant économiser 40 millions d'euros de dépenses publiques par an et serait aussi une réponse à terme au surpeuplement des centres pénitentiaires italiens dont les effectifs ont doublé en 30 ans.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. À demain.